Dieu appelle toujours au bon moment, il ne se trompe pas. C'est là qu'il faut répondre. C'est quand on entend la voix de Dieu, aujourd'hui, au jour de l'appel, réponds-lui. Plus tard, tu ne sais pas ce qu'il y aura. Plus tard, il y aura d'autres circonstances, ce sera beaucoup plus difficile peut-être. Demain ne nous appartient pas, aujourd'hui est le seul jour qui nous appartient. Et l'ennemi numéro 4, c'est de ne rien décider du tout, c'est de laisser aller. J'ai entendu, d'accord, mais je ne réponds rien du tout. Mais ne rien répondre est une offense à Dieu. Ne rien répondre est une offense à Dieu. C'est un mépris, un irrespect du Seigneur et un manque de sérieux. Dieu nous demande de répondre quelque chose. Je suis venu. Pourquoi n'y avait-il personne, dit le prophète Ésaïe au chapitre 50. J'ai appelé. Pourquoi personne n'a-t-il répondu? Ésaïe se fait le porte-parole du Seigneur pour dire, mais il n'y a pas quelqu'un qui répond. Ésaïe lui-même va dire, j'ai entendu la voix du Seigneur qui disait, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Que ce matin nous puissions dire, Seigneur, je ne sais pas en quoi ça va consister exactement, mais je commence jour après jour à entrer dans l'obéissance, dans la simplicité, en te disant oui, un jour à la fois. Oui, aujourd'hui, oui, demain, oui, après-demain. Chaque jour, simplement, sans stress, dans l'obéissance, dans l'écoute du Seigneur, dans une vie attachée à lui, simple témoin, je dis oui, Seigneur, oui, simplement. Et le Seigneur nous fait grandir ainsi dans notre vocation naissante. Ne laissons pas le Seigneur sans réponse, même si nous ne discernons pas toutes les étapes, nous ne savons pas comment ça va être, nous ne connaissons pas les détails, va par la foi, mon frère. Va par la foi, ma sœur. Avance doucement, avec confiance, dans celui qui te tend la main et qui t'appelle aujourd'hui. Ce qui me frappe dans l'Écriture, c'est de voir à quel point les gens, certains, les disciples entre autres, ont répondu spontanément et avec une grande détermination. Pierre lâche ses filets et il suit Jésus. Matthieu sort, se met debout devant sa table, il laisse tout là et il suit Jésus. Etc. Nous trouvons, c'est Élisée pareil, nous trouvons ces réponses incroyables où d'un instant à l'autre, il y a ce « oui » du cœur. Pourquoi? Eh bien parce que la parole de Jésus était une parole d'autorité chargée de l'onction du Saint-Esprit. Lorsque l'onction du Saint-Esprit est là, vous avez la force pour dire oui. Lorsque l'onction du Saint-Esprit vient, vous avez envie de répondre et vous pouvez répondre. Vous pouvez dépasser toutes vos craintes, vos timidités et vos appréhensions et vos questions parce que vous sentez que le Saint-Esprit est toujours à la hauteur de notre appel et de l'appel qu'il lance dans nos vies. Je ne peux oublier ces moments où, d'une manière précise, il y a eu des moments forts où cet appel a retenti de suivre Jésus et où, totalement inhabitué à se lever pour un appel à venir devant, totalement inhabitué à se présenter devant les gens pour qu'on prie pour moi, je ne connaissais pas cela, eh bien, poussé par le Saint-Esprit, entraîné par l'onction qui était venue soudainement sur ma vie, je ne pouvais résister à cela. Quand l'onction du Saint-Esprit vient, ne résistons pas. Quand l'onction du Saint-Esprit est là, lorsqu'on sent le Saint-Esprit qui nous touche, qui nous parle, il faut répondre. Il est bon de répondre et d'être entier, de se donner entièrement. Je voudrais voir maintenant courtement deux personnages qui ont répondu à l'appel. Et nous lisons encore une fois dans 2 Timothée, les versets 16 et 18 du chapitre 1. 2 Timothée 1, 16 à 18. D'abord nous lisons, ensuite je mettrai le texte dans son contexte. Verset 16, déjà le verset 15. « Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres Phygèle et Hermogène. » Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la famille d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé, il n'a pas eu honte de mes chaînes. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et il m'a trouvé. Que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. Tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. » La deuxième lettre de Paul à Timothée, c'est la toute dernière lettre que Paul va écrire. C'est son testament spirituel. Il est emprisonné à Rome. Il n'est plus en train d'implanter des églises. Il va écrire que finalement, à la fin de sa vie, il est relativement seul. Il va parler que plusieurs l'ont abandonné, ceux qui ont été fidèles autrefois, ceux qui avaient répondu à l'appel autrefois, ceux qui étaient ses équipiers sont partis à droite à gauche. Certains l'ont abandonné pour le monde, sont retournés dans un reniement de leur appel. Et Paul ne peut rien faire d'autre que finalement de prier et d'écrire ces choses comme son testament, comme une constatation qu'il faut être fidèle et persévérant jusqu'à la fin. Et dans ces gens qui l'ont abandonné, qui sont mentionnés et qui ont bien commencé, qui ont lâché en cours de route, parmi eux émerge quelqu'un qui est comme une étoile lumineuse dans le ciel, dans le firmament de sa prison sombre et humide à Rome. Et il parle de Onésiphore. Et il va lui rendre un vibrant hommage. Cet homme, qui était un chrétien engagé à l'église d'Éphèse, est venu jusqu'à Rome. Et comme il ne connaissait pas Rome, ni les différentes prisons qu'il y avait à Rome, il nous est dit qu'il a cherché avec beaucoup d'empressement pour trouver Paul. Imaginez-vous, Onésiphore est tout seul à Rome, la capitale de l'Empire, et il ne sait pas comment s'y prendre, il n'avait probablement pas de GPS à l'époque, peut-être une carte. En tout cas, il s'est débrouillé, il a cherché à droite. Il aurait pu dire, mais maintenant ça fait 2 jours que je cherche, ça fait 1 semaine que je cherche, on ne m'indique pas où se trouve Paul, je rentre. Il aurait pu dire ça. J'ai tout fait, je n'ai pas de reproche à me faire, j'ai essayé. Au moins, j'ai bien essayé, mais je n'arrive pas à atteindre Paul. Mais il a cherché avec beaucoup d'empressement et il a trouvé cette prison sombre. Il est descendu dans ses caves pour frapper à la porte de la prison pour obtenir une autorisation de visiter Paul. Un homme qui a simplement, dans son appel, fait une chose toute simple. Il a visité un prisonnier. Il s'est donné de la peine pour arriver au but, pour le visiter, simplement, par son amour fraternel, tel un bon berger qui cherche la brebis perdue et qui va la chercher jusqu'à ce qu'il la trouve. Onésiphore est de cette nature-là. Il va chercher Paul jusqu'à ce qu'il le trouve. Il nous est dit au verset 16 que Onésiphore a souvent consolé Paul. Le mot « consoler » peut être traduit par « réconforter ». Et le mot grec est intéressant, c'est le mot « anapsucho » qui veut dire, « ana » c'est de bas en haut, « relever le moral ». C'est relever le moral de quelqu'un. Peut-être vous n'avez pas un appel d'évangéliste ou de pasteur ou de missionnaire ou d'apôtre, mais nous pouvons tous relever le moral de quelqu'un, comme Onésiphore. Il a simplement visité quelqu'un et il lui a relevé le moral. Il lui a souvent remonter le moral. Je ne sais pas si vous connaissez le ministère du découragement. Vous connaissez ça? Avez-vous déjà été victime du ministère de découragement? Alors faites la différence. Faites la différence. Allez contre cela. Et relevons le moral des gens comme Onésiphore qui a souvent réconforté. Et un autre mot peut dire rafraîchir l'esprit. Comme dans ces temps de chaleur, on est rafraîchi par une bonne poisson fraîche ou par une bonne glace, quelque chose qui rafraîchit l'esprit, anapsuro, qui relève le psyché, qui relève le moral des gens, quelqu'un qui est positif et qui amène quelque chose de bien, qui rafraîchit, qui encourage. On ne sait pas ce qu'Onésiphore a raconté à Paul, on ne sait rien du contenu de ses visites. Mais nous savons seulement l'effet que ça produit. Il y a des gens qui disent, mais je ne sais plus très bien ce qu'on a dit dans cette visite, mais ça m'a fait du bien. Je ne sais plus très bien ce qu'il a prêché, mais ça m'a fait du bien. Bien sûr qu'on aimerait qu'on retienne peut-être davantage du contenu, mais peu importe. L'important, c'est que le moral soit relevé, le courage soit revenu, qu'on ait reçu quelque chose de Dieu par un simple ministère d'encouragement, un simple Onésiphore qui veut dire, la traduction d'Onésiphore, c'est ajouter du profit, ajouter du profit. Celui qui porte, phoros veut dire porter, celui qui porte le profit, celui qui amène, qui ajoute un intérêt, qui ajoute un profit, celui qui ajoute un petit plus dans la vie de quelqu'un. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un appel merveilleux d'ajouter un petit plus? Vous déposez un petit plus sur la vie des gens. Vous amenez un petit plus dans leur morale, dans leur vie. Vous éclairez quelque chose. Nous savons que Paul avait un grand ministère. Mais sans ses équipiers, sans ses Onésiphore et autres, il n'aurait pas été très loin. Un proverbe dit, seul vous pouvez aller plus vite, mais ensemble vous allez plus loin. Tout seul je peux aller. Mais ensemble je vais aller en tout cas plus loin. Et Paul, quand il arrive en prison, lorsqu'il ne peut plus rien faire, il est bloqué complètement sur place, eh bien, il a encore des Onésiphores. Et Dieu a pourvu qu'il reste au moins quelqu'un qui va relever son moral. Et je veux prier, mes frères et sœurs, qu'il vous restera toujours, jusqu'à votre dernier souffle, jusqu'à mon dernier souffle, quelqu'un qui sera capable de vous relever le moral. Quelqu'un qui sera capable, envoyé de Dieu, qui va vous chercher. Je vais partir en vacances bientôt, dans 2 heures. Mais Dieu m'a mis à cœur quelque chose. Je ne sais pas comment l'expliquer. Bien sûr que on a droit à notre peau, tout ça, c'est vrai. Mais il est plus important d'obéir au Saint-Esprit encore que nos propres projets, même de vacances. Et Dieu m'a mis à cœur de visiter une ou deux personnes, car je suis convaincu, et le pasteur Charlie Bugley pourrait vous raconter pas mal d'histoires, où il est parti juste comme ça, aller visiter quelqu'un qui n'avait plus de visite, plus de contact, qui était abandonné. Il a été un onésiphore pour l'un ou l'autre. C'est ce que j'aimerais être. J'aimerais être un onésiphore pour quelqu'un. Bénissez, c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Nous sommes tous appelés, non pas à des grands ministères, mais à bénir les autres. Aujourd'hui, cette semaine, un simple SMS, un simple téléphone, une simple visite peut faire tant de bien. Et j'aimerais remercier, je ne sais pas si cette personne est ici ce matin, cette semaine, un téléphone de quelqu'un que j'aurais jamais pensé. Il a été pour moi un onésiphore dans une journée difficile. Il a été pour moi par un simple téléphone et ce qu'il m'a dit, c'était impressionnant. Et je bénis ce frère qui m'a appelé pour me dire cela. Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim? T'avons-nous donné à manger, avoir soif? T'avons-nous donné à boire? Quand est-ce que nous t'avons vu étranger et que nous t'avons recueilli, nu, nous t'avons vêtu? Quand est-ce que tu as été malade et que nous, en prison, nous sommes allés vers toi? Et le Seigneur va répondre, chaque fois que vous avez fait ça, c'est à moi que vous avez fait. Et les gens vont dire, mais Seigneur, quand est-ce qu'on a fait ça? On ne se souvient même plus. C'est-à-dire, on a fait notre devoir, on a fait simplement ce qu'il fallait faire. Comme Jésus disait à Marie de Béthanie, elle a fait ce qu'elle a pu, simplement. Quand nous faisons ce que nous pouvons, le Seigneur va le noter dans son livre de souvenirs. Et dans Matthieu 25, qui est un chapitre très important de la fin des temps, où le Seigneur va déclarer de grandes choses dans ses jugements et dans ses récompenses, il va dire des choses par rapport à ses brebis, par rapport aux boucs, et il va dire des choses toutes simples. Vous m'avez visité, vous m'avez encouragé, vous m'avez habillé, vous m'avez accueilli. C'est tout simple. Un ministère de rafraîchissement, de relever le moral, Onésiphore, il avait compris ça. Deuxième exemple, nous le trouvons dans le 2 Timothée, toujours, chapitre 4, verset 11. Paul, toujours en prison, bien sûr, il écrit son testament, il cite pas mal de gens, et il va dire ceci, « Luc est seul avec moi. Prends Marc et emmène-le avec toi, car il m'est fort utile pour le service. » Mon dernier point, dans l'appel, dans le ministère, dans la vocation adressée à chacun, c'est d'encourager quelqu'un qui a eu un appel, mais qui s'est découragé. Jean-Marc était de ceux-là. Dans Acte 13, nous lisons que Paul et Barnabas, les deux pionniers de l'œuvre envoyés par l'église d'Antioche, sont partis évangéliser. Et ils ont pris avec eux Jean-Marc, le petit jeune, comme aide, comme adjoint, comme stagiaire. Jean-Marc est parti avec eux dans une première étape et ensuite ils sont partis sur la Turquie. Et là, le voyage était long, la distance avec la maison parentale était longue. Et il nous a dit que Marc les a abandonnés en pleine tournée d'évangélisation. Il est rentré chez lui. Au chapitre 15, nous lisons dans Actes toujours que Paul et Barnabas vont repartir en voyage missionnaire. Et Barnabas va dire, on va reprendre Marc. Et Paul dit, non, il nous a abandonnés, on ne le reprend pas. Et la Bible dit qu'il y a une dispute entre eux à cause de Jean-Marc. Et finalement, ils vont se séparer. Alors, mettez-vous à la place de Jean-Marc. Jean-Marc, comment est-ce qu'il se sent après toutes ces années ? Il est extrêmement culpabilisé parce qu'il avait un appel sur sa vie. Il était tout fier de faire partie d'une grande équipe d'évangélistes, de grands pasteurs qui allaient être des missionnaires dans les premières églises. Il était tout content d'être choisi. Il y avait un appel sur sa vie. Il était heureux, il était motivé. Mais à un moment donné, il a craqué, il a abandonné, il a arrêté tout. Il est rentré. Maintenant, on se dispute à cause de lui. Il est la cause de la dispute entre Paul et Barnabas. Mais à cause de moi encore, c'est de ma faute qu'ils se disputent maintenant. Donc il est encore une fois découragé. Regardez ce que l'on lit dans l'Écriture, dans 1 Pierre 5, 13 nous dit « L'élu qui est à Babylone vous salue, de même que mon fils Marc. » Écoutez, c'est Pierre qui écrit cela. Pierre écrit « Marc, c'est mon fils » et Pierre va écrire ça bien plus tard. Il a récupéré Jean-Marc. L'apôtre Pierre, le grand apôtre Pierre a récupéré Jean-Marc et il va même l'appeler « c'est mon fils ». Alléluia, quelle consolation. C'est mon fils. Et souvenez-vous que Pierre lui-même avait abandonné le Seigneur, il l'avait renié 3 fois. Et il pouvait bien comprendre ce que ressentait Jean-Marc. Et il l'a pris sous son aile. « Jean-Marc, je te comprends tellement, j'ai fait pareil. Mais Jésus m'a pardonné, il m'a relevé, il m'a redonné mon appel. Jésus te redonne aussi ton appel. » Et maintenant Paul est en prison et il va dire, vous avez lu avec moi, « Amenez Marc, amen Marc, car il m'est fort utile pour le service. » Tout à la fin du ministère de Paul, il se souvient de ce jeune qu'il avait abandonné, qui n'avait pas tenu le coup, qui avait été appelé mais qui avait craqué, qui a été la cause d'une dispute entre deux ministères. Il va rechercher pour réhabiliter, pour dire « Marc, tu es précieux pour moi, tu m'es utile, je compte sur toi, j'ai besoin de toi. » Quelle réhabilitation! Ils reçoivent une deuxième chance. Ce que le diable voudrait voler de ta vie, le Seigneur va le récupérer. Ce que le diable voudrait prendre et éteindre de ta vie, le Seigneur va le récupérer. Et je termine avec cette histoire. Où est cette guitare ? Ouais, si tu veux prendre la bonne guitare, merci beaucoup, Jeffrey. Je vais vous raconter l'histoire de la guitare volée. La guitare volée, la voici. Il y a à peu près un mois, nous avons eu un vol dans l'église. Et j'ai remarqué en entrant dans le bureau qu'on avait essayé de forcer le bureau. Mais comme il n'y avait pas eu d'effraction, je ne me suis pas autrement préoccupé. Mais c'était un jeudi soir. Et samedi matin, il y a Jeffrey qui m'appelle et il me dit « Walter, est-ce que tu peux juste aller voir dans l'église si la guitare est toujours à sa place ?» Je descends donc avec mon téléphone dans l'église et je regarde, je cherche. Je dis « Jeffrey, la guitare n'est pas là. » Il me dit « En effet, la guitare est en vente dans un magasin à Genève. » Et je dis donc à Jeffrey « Écoute, dis au vendeur qu'il ne la vende pas, qu'il la mette de côté. » Donc lundi matin, nous sommes allés déposer plainte à la police avec Jeffrey, qui a décrit la guitare précisément. Il connaissait même son numéro de série. Et nous avons donc, avec ce papier-là, nous sommes retournés au magasin et nous avons voulu récupérer notre guitare. Il m'a dit non, il faut payer. Si vous voulez avoir la guitare, vous me donnez au moins ce que le voleur, il n'a pas dit le voleur, mais ce que le voleur m'a vendu. Sur ce, je n'ai pas pu me décider sur place, j'ai téléphoné, on a réfléchi Et on a appelé j'ai appelé la police à nouveau, qui m'a dit, mais on vous envoie une brigade, c'est eux qui vont régler le problème. Donc, finalement, pour faire une longue histoire courte, la brigade est arrivée, et c'est eux qui ont dit au magasin, restituez la guitare à ces deux messieurs. Et avec le papier en main, et surtout avec l'autorité de la police, la guitare nous a été remise gratuitement, en main, et la voici. Une guitare volée, une guitare vendue, une guitare qui a été remarquée, parce qu'il faut dire que par hasard, avec le plus grand hasard, Jeffrey passait devant le magasin, et il était avec un ami, il dit, mais on va rentrer voir ce qu'il y a dans les instruments de musique, et il tombe nez à nez avec notre guitare. Il faut le faire, hein. Je termine mon message avec cette histoire, parce que pour moi c'est une grande parabole. La guitare est destinée à la louange. L'appel de la guitare, c'est quoi ? La louange. L'appel de la guitare, c'est d'être ici sur l'estrade et de servir à la louange. Elle a sa place parmi les autres instruments, simplement. Mais elle est placée là pour être dans son appel, qui est la louange dans la maison de Dieu. Mais un voleur est venu. Il voulait faire taire la musique de cette guitare, les notes de cette guitare. Peu importe si vous n'aimez pas la guitare basse, c'est pas ça que je veux dire. Il y a des instruments qu'on aime plus que d'autres, mais là, il s'agit d'un instrument où le diable voulait museler l'appel, il voulait faire taire, il voulait la vendre à plus fort. Et nous sommes arrivés, nous disons, mais c'est notre guitare, il faut qu'elle revienne. Mais il y avait un obstacle, il y avait une impossibilité, et il fallait une autorité supérieure pour régler le problème. J'aimerais vous dire ce matin, pour que vous retrouviez votre place dans votre appel, il faut une autorité supérieure. Celle de Jésus et du nom de Jésus. Et au nom de Jésus, tout ennemi, quel que soit son nom, doit lâcher prise et doit restituer ce qui revient à la maison de Dieu. Comme Jean-Marc, qui a perdu son appel, mais qui a été récupéré par la grâce, qui a été récupéré parce que Paul a changé d'idée à son égard. Il a été récupéré parce qu'un Pierre a vu que c'était un garçon plein de valeur, plein de potentiel, et que c'était son fils finalement. Et le Seigneur veut récupérer pour que tous les appels retrouvent leur place ce matin. Alléluia. Soyez un Onésiphore, relevez le moral de quelqu'un cette semaine. Soyez comme Jean-Marc, que retrouve sa place dans l'appel que vous avez peut-être, dans lequel vous êtes découragé. Rien ne fera taire la voix des élus de Dieu. Rien ne fera taire l'appel qui résonne dans nos cœurs. Rien. L'autorité supérieure est là pour libérer toute chose. L'autorité supérieure est là pour libérer et racheter ce qui a été volé. Au nom de Jésus.